Et comme pour un acteur, c'est la personnalité, sa présence.
Franchement, ma chère, c'est le cadet de mes soucis.
Je m'appelle Berlin Noël et j'aime bien les hyènes.
Come on, guy. We'll be sweet with me.
C'est tellement intéressant de voir la réaction des spectateurs à qui on peut déplaire. J'aime bien frôler les catastrophes.
Mais vous savez, moi je ne crois pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises situations.
On a tout vu.
Allez, action!
Action, pourquoi faire?
Certaines phrases prononcées au bon moment peuvent agir comme un viatique. Cette formule, par exemple, énoncée un jour par le metteur en scène Jacques Lassalle et qu'elle n'a pas oubliée. On est acteur pour savoir qui on est. À nous de reconstituer le puzzle après ces 80 films. Bonjour tout le monde et salut Laurent.
Bonjour Christine, bienvenue à toutes et à tous.
Une actrice née, comme on dit, est née très tôt dans les coulisses de théâtre. Elle a même salué à 6 ans, aux côtés de sa mère, sans avoir joué, certes, mais avec déjà cette folle envie d'interpréter. Bonjour Emmanuel De Vos.
Bonjour.
Oui, 80 films en 30 ans déjà, révélés par Arnaud Desplechin, d'autres suivront. Audiard, Rochand, Carrère, Bonitzer, Bonnel, j'en passe. Emmanuelle De Vos, singulière, imprévisible et audacieuse, vous l'êtes dans vos choix d'actrices, comme celles et ceux dont vous avez dressé la liste pour nous ce matin, par parenthèse, de sacrées personnalités. Oui, nous reviendrons sur ces films et ces prestations, l'occasion finalement de mieux définir le jeu et l'acteur. Enfin, et à partir de ce soir, les soirées seront bien longues, alors quelques propositions pour les combler d'images et de livres. C'est parti.
Ça vous embête pas si j'ouvre la fenêtre parce que j'ai vraiment chaud.
Allez-y.
Ah, mais ça va pas vous gêner pour le bruit?
Non, je pense que ça va aller. Vous savez, moi, la technique. Mais alors, par contre, est-ce que vous pouvez essayer d'être un peu plus émouvante?
Comment ça?
Plus émouvante.
Bah, je sais pas, c'est à vous de me dire, hein. C'est,
je sais pas, plus émouvante, quoi.
Par exemple, plus émue?
Je sais pas, oui, voilà, très bien.
Mais c'est qui cette fille Enfin, je veux dire, qu'est-ce qui lui arrive exactement?
Je sais pas, mais faut pas vous poser trop de questions. Hein. C'est juste une gonzesse qui est un peu perdue. C'est tout.
Oui. Vous auriez pas un vrai téléphone? Parce que là, je sens pas trop le geste.
Oui, bah prenez celui qui est là.
Ça?
Vous êtes prête? Allez.
J'y vais?
Ouais. Action.
Extrait du film de Jérôme Bonnel, Le temps de l'aventure. Une expérience, une aventure souvent vécue, le casting, Emmanuel De Vos. Beaucoup de casting, avez-vous dit, avant de décrocher, c'est drôle ce terme d'ailleurs, décrocher un vrai rôle. C'est une expérience humiliante et à la fois instructive pour une actrice.
Oui, ben, on y passe tous et ça nous apprend à l'humiliation.
Non, non, mais pas l'humilité. Mais pas l'humilité.
Et la victoire quelquefois ou la défaite. Non, non, mais c'est bon. Ben non, mais c'est ce qu'il y a, c'est pas le problème de passer un casting, bien sûr. C'est voilà. Mais ce qui est compliqué quelquefois, c'est d'être mal reçu. J'ai des souvenirs comme ça, un peu cuisants, où on vous demande, par exemple, alors t'es dans une voiture à côté de ta copine. Vous dites, vous êtes sur une chaise seule, sur un filmé par une mauvaise caméra avec une mauvaise lumière. Et il y a 6 chiens derrière qui aboient. Donc là, il faut vraiment que. Et là, tu dis, bon, fout de ma gueule, quoi. Donc, et le pire, je me souviens, ce que je détestais, c'est que c'est un côté un peu anthropométrique où on dit, alors, profil gauche, profil droit, devant, dites votre nom, votre âge. Et un côté, on a été, voilà, on est mis en examen, quoi. Donc, c'était un peu flippant.
De 20 à 28 ans, donc pratiquement pas de rôle au cinéma, dites-vous, même après tous ces castings. Il y a un journaliste qui a écrit quelque chose assez belle sur vous et sur Valérie Bruni et Jeanne Balibar. Elles ont dérégulé la manière d'incarner une jeune femme dans le cinéma français. L'attitude, la diction, l'intonation. C'est vrai qu'il y a quelque chose d'imprévisible avec vous, vous trois et vous en particulier, Emmanuel De Vos.
Oui, enfin, je pense que des acteurs imprévisibles, il y en a toujours eu, mais
un décalage, un certain décalage.
Ouais, mais je pense que ça devait peut-être aller avec un cinéma comme ça qui arrivait, de Rochand, Desplechin, Noémie Lvovsky. Oui, je pense qu'on est les actrices de cette époque-là, quoi. Oui.
On va avoir une certaine liste d'actrices avec vous, de performances entre guillemets. Mais vous aimez bien quand l'acteur dit rien. Vous trouvez ça même plus difficile quand un acteur ne dit rien?
Ah oui, j'ai des souvenirs. En fait, que quand je réfléchissais aux actrices, voilà, vous m'avez demandé plusieurs noms et je repensais par exemple à l'exercice le plus difficile, c'est-à-dire de l'écoute ou de marquer un personnage uniquement sur un plan, en un regard. Alors j'ai des souvenirs comme ça, je l'ai pas mis dans la liste, mais c'est, et ça peut être, par exemple Marion Cotillard, je me souviens très très bien d'un film de Guillaume Canet, une espèce de remake qu'il a fait aux États-Unis avec Clive Owen. Et il y a un plan sur elle, Clive Owen rentre, il sort de prison. Et il rentre dans une cuisine, dans un appartement, et il y a un plan sur Marion Cotillard, et en un plan, vous voyez dans son regard, de zéro à une trentaine d'années, toute sa vie, ce qu'elle pense de ce garçon qui vient d'entrer, ce qu'elle a vécu, et ce qu'elle attend de cet homme. Je me souviens, le film, je m'en souviens pas très bien, mais de ça, je m'en souviens très très bien.
Mais vous avez des souvenirs aussi, vous, sur un tournage, parfois d'exprimer des choses sans parler. J'imagine
mais
que
j'adore,
ça arrive
oui,
beaucoup.
Mais c'est ce que j'aime le plus. Par exemple, en ce moment, je tourne avec Claire Simon, et je tourne une... voilà, je fais une interview comme vous faites là. Alors là, vous m'écoutez très très bien, je vois bien. Vous êtes... et c'est très très compliqué de... Enfin, je sais, par exemple, quand on est jeune acteur, on ne sait pas le faire. Dans les cours de théâtre, on joue quand on a les mots, mais quand on n'a plus les mots, tout le monde s'éteint. Et c'est souvent un travail qu'on nous fait faire dans les cours, parce que c'est très important de savoir écouter et de savoir exprimer. C'est pour ça qu'il faut aussi beaucoup regarder Greta Garbo, enfin tous les films muets, c'est très intéressant, parce que les gens n'avaient pas de mots pour s'exprimer. Donc c'est le cinéma aussi ça.
Votre première sur la liste, c'est une actrice dont on dit finalement elle a incarné qu'un seul rôle, le sien, c'est Simone Signoret. Vous êtes d'accord avec cette idée ou c'est plus compliqué que ça?
Alors ça c'est la grande question. Quand on dit il y a des acteurs de composition qui se changent à chaque fois, moi à force de voir des films avec par exemple Robert De Niro ou des gens qui sont un peu réputé pour ou Daniel Day-Lewis pour se changer à chaque fois. Moi, je les vois de plus en plus eux, finalement. Ils avancent masqués, mais moi, je sais qui ils sont et c'est ça qui est beau. C'est qu'ils ont l'impression, je prends 30 kilos pour Raging Bull, je me rase la tête pour Taxi Driver, l'autre, il devient hémiplégique pour My Left Foot. Mais en fait, je dis, c'est drôle, mais je les vois, je sais qui ils sont. Ouais. Parce que ils pensent peut-être nous leurrer, mais non. Donc Simone Signoret, effectivement, elle s'amuse pas à changer. Mais je l'ai vue dans tellement de films. Mais c'est la même, mais c'est toujours une autre. Alors que elle s'en fiche de l'acteur studio, de choses comme ça.
Vous avez choisi un très très grand film, c'est L'Armée des Ombres de Jean-Pierre Melville. Elle incarne cette résistante Mathilde, inspirée de Lucie Aubrac. On écoute cet extrait, Mathilde Signoret face à Lino Ventura, Gerbier, l'un des chefs de la résistance.
Nous allons nous occuper de Félix. Voilà. Je sais que Félix n'a pas de comprimé de cyanure sur lui. Je n'ai pas peur qu'il parle, non, c'est pas ça. Mais il n'a sûrement aucun moyen de se soustraire à la torture. La Gestapo ne vous laisse ni la possibilité ni le temps de vous suicider. Il faut lui épargner les souffrances qui risquent de s'éterniser des jours, des semaines, qui sait.
J'y ai pensé. Il n'y a pas plusieurs solutions.
Vous en avez trouvé une?
Oui, il faut pénétrer à l'intérieur de la Gestapo et en ressortir avec Félix.
Mathilde, je veux sauver Félix. Mais je n'engagerai pas un groupe de combat dans une aventure désespérée. Je n'ai pas le droit de sacrifier qui que ce soit.
Il n'est pas question d'un groupe de combat. Avec le masque, Jean-François et le bison, je dois y arriver.
Et comment?
Et quelle est votre idée?
Le bison. Vous pouvez vous procurer trois uniformes allemands?
Bien sûr, Madame Mathilde.
Ben, allez-y. Non, la première difficulté, c'est d'entrer en contact avec Félix pour le prévenir. Là, ça, j'ai pas encore trouvé le lien. Mais ça va venir. Parce qu'il faudra que Félix nous attende et qu'il soit prêt.
J'essaie moi-même de le faire contacter depuis 8 jours. On dirait que l'école militaire de santé de Lyon a été construite par un architecte allemand. Et on n'y entre pas.
Ah non, ça, c'est vrai, pas très facilement.
Grand film, L'Armée des Ombres, jeu hyper sobre.
Bah, je pensais que c'est Melville. Oui. Qui devait empêcher tout le monde de s'exciter sur des phrases, quoi. On dit le texte et on, mais surtout il engage, c'est une époque où finalement c'est des acteurs, c'est des voix, c'est des personnalités extrêmement fortes, enfin Lino Ventura ou Simone Signoret, c'est ça, Simone Signoret, c'est avant tout, vous voyez, une personne, un être humain. Donc après on s'en fiche qu'elle fasse du, qu'elle compose un personnage ou pas.
Oui.
C'était des gens qui avaient vécu sûrement aussi des choses beaucoup plus compliquées que nous. Enfin voilà, ces gens qui ont vécu la guerre, qui ont vécu de Simone Signoret, un très beau livre qu'il faut lire, c'est La nostalgie n'est plus ce qu'elle était, où elle raconte un peu toute sa vie. C'est une époque comme ça. Nous, on est un petit peu des premiers communiants à côté, quoi. Enfin.
Elle raconte aussi que c'était difficile avec Jean-Pierre Melville, vous savez, pour le moment de l'exécution, elle dit, est-ce que c'est elle qui les a donnés? Et Melville lui dit, j'y étais pas, moi, je sais pas si elle a parlé. C'est une indication formidable, dit-elle. C'est une indication sans indication, quoi. C'est à elle de trouver sa vérité, en gros.
Ben oui. Mais souvent, moi, j'aime bien que les réalisateurs vous donnent un peu, ne vous donnent pas toutes les clés. Mmh. On a aussi une action créatrice, hein, en tant qu'acteur. On n'est pas que observant et voilà. On a des manettes, hein. Ouais. Voilà, ça m'est arrivé de décider de comment jouer telle scène parce que je trouvais ça mieux que ce qu'on m'indiquait. Donc, on a une prescience un peu, on a une place que n'a pas le réalisateur, même si c'est lui qui a écrit, ou voilà. On sait des choses qu'il ne sait pas.
Elle était un symbole de la féminité qui a exploré beaucoup de territoires. C'est Sophia Loren, c'est l'une de vos actrices préférées au monde. La Chichara, prix à Cannes et Oscar, d'ailleurs, mariage à l'italienne, la comtesse de Hong Kong, Arabesque, hier, aujourd'hui et demain, et notamment une journée particulière que vous avez choisie. À Rome, le 6 mai 1938, alors que les habitants de l'immeuble assistent au défilé du Duce Mussolini et d'Hitler, une mère de famille nombreuse et un homosexuel se rencontrent, donc avec Mastroianni. On l'a choisi en français parce que c'est Sophia Loren qui se double en français.
Seulement le mois dernier, j'ai trouvé une lettre d'une certaine Laura, une institutrice d'école primaire, rue Ruggero Bonghi. Se mettre avec une femme instruite. C'est comme si mon mari avait... C'est comme s'il me jetait en pleine figure que je suis une ignorante. Bon, c'est vrai qu'à l'école, je n'y suis pas allée pour ainsi dire, mais... Une lettre comme celle-là... Même au début, quand je l'aimais... Je lui en ai jamais écrit. Mais parce que je ne sais pas l'écrire, moi. Une ignorante, on peut lui faire tout ce qu'on veut parce qu'on n'a aucun respect pour elle.
On entend encore plus à la radio cette bande-son fasciste en dessous, sous ce dialogue, c'est fou.
C'est avec Mussolini qui parle derrière, c'est exceptionnel. Mais vous savez, la plus belle scène de ce film, justement, on parlait quand on ne parle pas.
Une journée particulière.
Au tout début, toute la petite famille est partie écouter le Duce, elle reste seule, et elle fait une sorte de faux ménage, elle s'assied, elle prend des cafés dans diverses tasses,
avec
elle
verse dans une...
Oui, elle ramasse les miettes mollement, elle est épuisée déjà de cette, et tout de suite, ça y est, on a la personne, on a là où elle vit, on a ce qu'elle pense, on a tout en une. C'est un petit plan séquence.
Oui.
C'est merveilleux. Enfin, mais elle, je pense qu'elle n'est pas considérée comme. Moi, je pensais vraiment une des plus grandes actrices du siècle, hein, du siècle d'avant.
Ah oui.
Mais à cause de cette beauté surréelle. Et je pense ce sexe à pile et tout, elle n'est pas considérée comme, je sais pas moi, Elizabeth Taylor ou Meryl Streep, alors que pour moi elle est grandiose dans Ieri Oggi Domani. Elle joue quand même à la fois une femme du peuple, après une bourgeoise milanaise et une prostituée romaine, et elle passe de l'un à l'autre. Pareil, elle l'Hector Studio, à mon avis, elle sait même pas de quoi ça parle, hein. Et c'est incroyable, c'est vraiment une immense actrice.
Elle aussi est immense et continue de tourner après 60 ans de carrière. C'est Catherine Deneuve. Longévité dans le talent, malgré le nombre des années, c'est ça qui est fou. Hein. Elle continue à faire des super bons films à l'âge qu'elle a.
Parce que c'est une actrice cinéphile.
Ouais.
Je pense qu'elle adore le cinéma. Je pense qu'elle aime beaucoup jouer, mais elle adore le cinéma. C'est vraiment, je sais qu'elle va le mercredi voir, elle voit tout.
Elle voyait.
Elle allait.
Mais au futur aussi. On y croit.
Mais oui. Pareil.
C'est-à-dire, vous aussi, vous êtes cinéphile. Ça veut dire qu'on fait des meilleurs choix. Je comprends pas.
Bah, on se. Après, il y a une histoire de goût, hein. Je ne sais pas, mais pour elle, je peux pas parler à sa place. Mais
c'est-à-dire qu'on est aussi, on reste dans l'histoire du cinéma qui se fait, et on a envie d'y être.
Oui,
aussi,
voilà, c'est ça. On ne s'accroche pas, ouais. Voilà, les gens avec qui on a travaillé. Ouais. On continue à être. Ouais. Et ça se sent. Je pense qu'elle a même pas besoin d'écrire aux réalisatrices, aux réalisateurs. Pour dire, j'aimerais travailler avec vous. Ouais. Ça sent, ça sort d'elle comme ça. Elle est le cinéma, Catherine Deneuve.
Vous avez choisi ce film, Elle s'en va, d'Emmanuel Berco, et cette scène qu'on adore dans laquelle cette femme qui prend sa voiture lâche son restaurant après une rupture avec son amant, cherche à tout prix une cigarette en pleine campagne et entre chez ce vieux monsieur, un paysan qui va lui rouler très lentement une cigarette avec ses mains pleines d'arthrite.
Des hirondelles? Il n'y en a plus des hirondelles?
Chez moi, il y a plein, oui.
Il faut laisser les portes ouvertes?
Ah oui, oui. Dans tous les bâtiments, sauf dans l'hangar. Jamais. Mais ce côté de l'arrière, il y a une bonne année, la gelée qu'il y a eu là.
Oui, il a fait très froid très tard.
Oh oui, mais il y a 15 jours, il y avait la glace encore.
Oui, mais même après les seins de glace.
Oui, oui, oui.
La gelée blanche.
Oh oui.
Mais vos cultures, elles n'ont pas été abîmées?
Si, le maïs était sorti et jaune. Oui.
Et vous êtes tout seul dans la ferme?
Oui.
Vous avez jamais été marié?
Non. Non.
Même pas fiancé?
Non, non.
Moi, j'étais mariée. Une fois.
J'avais une copine quand j'étais jeune, mais elle est morte à 21 ans.
21 ans?
Oui, tuberculose. Elle a souffert. Et elle m'a dit, il faut pas te marier, restez tranquille. Comme ça, je l'ai écouté.
Il sait pas qui vous êtes, j'ai l'impression.
Ah bah non, mais c'est pas une impression, il sait absolument pas qui je suis.
Ouais.
Après la scène, moi je lui ai demandé s'il pouvait m'emmener à sa ferme, je voulais voir sa ferme.
Ouais.
C'était inouï, on se serait cru, je sais pas, au 19e siècle. C'est-à-dire qu'il y avait encore de la terre battue dans la pièce principale. J'ai vu le hangar, justement, où on ne laisse pas rentrer les hirondelles pour pas élever le matériel. Donc ça, j'ai vu. Mais j'ai vu que c'était un homme qui faisait maintenant encore, bon, des champs de pommes de terre, tout ça tout seul, mais qui pouvait plus vraiment entretenir sa propriété. C'était incroyable. Et la ferme elle-même, c'était incroyable.
On sent que c'est vous, Catherine Deneuve, qui lui parlez, vraiment. C'est-à-dire que vous seriez dans une cuisine comme ça, vous diriez tout ça.
Mais devant cet homme-là, comme ça, et tel que je me le représente, oui. Oui, voilà, je veux dire, c'était... D'un seul coup, ça m'a intrigué. Oui.
Ça veut dire jouer, ça peut être pas jouer alors.
Ben c'est jouer à la vie, quoi. C'est jouer comme les enfants, d'ailleurs, comme si c'était vrai. Et moi, voyant ce monsieur, avoir envie de lui poser, sachant qu'il est paysan, comme j'aime beaucoup l'agriculture et que ça m'intéresse, j'ai envie de lui poser des questions quand il me parle des hirondelles, quand je lui parle des seins de glace, c'est-à-dire ce froid terrible qui peut arriver début mai, qui peut ficher en l'air les cultures. Enfin voilà, tout ça s'est fait vraiment très naturellement.
Jouer et pas jouer, Emmanuel De Vos.
Oui, mais vous savez ce qu'elle dit, on joue comme les enfants.
Oui.
On joue à être quelque chose, et voilà, et c'est parti. Et moi, je l'ai vu faire une chose quand même étonnante, Catherine Deneuve, sur un conte de Noël. On avait une scène, on était plusieurs, et Anne Consigny devait lui donner une lettre, et lui poser une question, elle devait juste répondre oui. On a dû faire la prise 8 fois, elle n'a jamais fait un oui pareil. Mmh. Ils étaient tous différents. Mais elle était juste à côté de moi, donc j'étais assise, je la voyais. C'était insensé, parce qu'elle a une grande élégance voilà, elle se la raconte pas grande actrice, mais c'est une grande actrice. Et elle fait voilà, c'est pas son voilà. Et puis il y a cette image un peu, bon, toujours Catherine Deneuve, mais comme elle le dit, elle est très agricultrice, quoi. Donc quand elle parle avec ce monsieur, elle est quand même à son affaire, hein, elle connaît bien.
Elle avait dédié le prix Lumière qu'elle avait reçu aux paysans
oui,
français.
Oui, elle est très attachée à ça.
Elle est hyper célèbre en Angleterre, moins chez nous. Elle s'appelle Sarah Lancashire, vous l'avez choisie, actrice de télévision, et surtout pour son rôle dans le soap-opéra Coronation Street, notamment, mais également au théâtre et dans des comédies musicales. Bref, une actrice complète comme ça vont produire les Anglais. Et en France, nous l'avons découverte grâce à cette série Happy Valley, dans laquelle elle incarne donc une jeune flic.
Une inspectrice d'une petite ville sinistre du nord de l'Angleterre.
Exactement, et on va l'écouter dans cet extrait où elle harangue un jeune garçon.
Leave me alone, you stupid bitch.
You're upset, I understand that. The point I'm making is that with all these fumes, and frankly, I don't know how you're staying conscious, you could go up any second whether you intend to or not. And once you go up, you won't just go up a bit, you'll go up a lot. And the other big thing to say is it hurts. 3 seconds in, you'll be screaming at me to put you out. 7 seconds in, you'll be begging me to shoot you.
9512. I've got a negotiator on his way to you, but he's stuck in traffic.
OK.
He says the big thing is to keep the subject engaged in conversation.
Yeah, I think we've got that covered. I'm Catherine, by the way. I'm 47. I'm divorced. I live with my sister, who's a recovering heroin addict. I've 2 grown-up children, 1 dead, 1 who don't speak to me, and a grandson, so...
Why? Why don't you speak to you?
It's complicated. Let's talk about you.
Ah, cet accent, en fait, elle dit, je m'appelle Catherine, je suis divorcée, j'ai une sœur ex-junkie et 2 grands-enfants, un fils qui ne me parle plus et une fille morte. Mais elle dit ça avec un...
Non, mais il faut vraiment regarder cette
Happy
série
Valley.
Happy Valley pour tout, parce que c'est excellent, mais elle est grandiose. Et pour moi, actuellement, c'est pour moi la plus grande actrice du monde, quoi. C'est ah oui, non, mais vraiment. Alors après, j'entendais dire les anglo-saxons, mais les anglais, vraiment, ils ont cette chose qu'ils ont le droit de prendre des accents aussi dans leurs films. Vous pouvez avoir un accent écossais,
oui.
Irlandais ou Yorkshire, j'en sais rien. Et c'est l'anglais est la langue du jeu. Parce qu'il y a beaucoup d'accents toniques, parce que il y a moi je suis toujours complexée par rapport aux Anglais. Je trouve qu'ils ont une formation beaucoup plus solide d'acteurs. Ils sont plus sérieux. Ils sont plus moi je trouve qu'on est un peu des touristes à côté.
Vous pourriez faire une comédie musicale par exemple.
Ah, je n'aime pas du tout les comédies musicales.
Ah, d'accord.
J'adore Jane Kelly, Fred Astaire. J'aime bien quand c'est filmé, mais en vrai je déteste ça. Ça m'ennuie, mais vous pouvez pas imaginer. Non, pardon, mais
y a
me lancez pas sur les comédies musicales.
D'accord.
Je me suis arrêtée à West Side Story.
Non, je voulais savoir si vous étiez capable, comme une actrice anglaise, de pouvoir chanter, danser.
Oui. Non, mais par exemple, on peut pas. Moi, je pense pas qu'on puisse être bon partout, quoi. Mm. Je le vois, je suis allée voir des comédies musicales. Genre, dès qu'ils se mettent à jouer, quelquefois, ça fout la trouille. Hein. Mais bon, enfin, elle, je ne savais même pas qu'elle avait fait des comédies musicales. Son rôle est assez noir. Hein,
ouais,
dans
très
Ballet.
Noir.
Oh, mais elle est entourée d'acteurs, mais ils sont tous tellement bien. On a l'impression moi, franchement, quelquefois, les Français, on a l'impression qu'ils viennent un peu en sifflotant. Travailler. Eux, ils arrivent, ils ont des propositions. Ils sont assez impressionnants.
Et exclusivement pour la télé, elle travaille d'ailleurs.
Ben oui.
Elle est française et sans doute moins connue du grand public, comme on dit. Elle, c'est Françoise Lebrun. Elle reste pourtant l'interprète d'une scène culte du cinéma. C'est le monologue de La maman et la putain de Jean Eustache. Un grand moment. L'actrice. Emmanuelle De Vos.
Oui, pardon. Non, je croyais que vous alliez lancer l'extrait. Oui, c'est... je revendique. Alors, vous voyez, je vous le disais par rapport aux Anglais. On a un peu... Mais... Il y a une chose typiquement française qui est le parler faux, mais qui peut être chez Truffaut, surtout la nouvelle vague, que je trouve assez charmant et qui est vraiment à nous, quoi. C'est un peu notre accent à nous, parler faux. Et cette logorée là dans laquelle elle se lance, c'est un plan séquence qui doit durer, je sais pas.
7 minutes à peu près.
7 minutes.
On a choisi une trente et quelques. On l'écoute, on en reparle
D'accord.
après.
Non mais moi, pour une sombre histoire de cul, vous prenez tous les deux une fois pour toutes que pour moi, histoire de cul n'a aucune importance. Que vous baisiez, j'en ai rien à foutre. Je suis tellement heureuse avec vous. J'en ai rien à foutre. Vous prenez-le au moins une fois pour toutes, j'en ai rien à foutre. Que je vous aime. Regardez, je commence à être saoule et je bégaye. Et c'est absolument horrible parce que ce que je dis, je le pense réellement. Et je pourrais rester tout le temps avec vous, tellement je me sens heureuse. Je me sens aimée par vous deux. Et l'autre qui me regarde avec ses yeux en couille demi, d'un air sournois en pensant « Oui, ma petite, tu peux toujours causer, mais je t'aurai. » Je vous en prie, Alexandre, je ne joue pas la comédie, mais qu'est-ce que vous croyez ? Pour moi, il n'y a pas de pute. Pour moi, une fille qui se fait baiser par n'importe qui se fait baiser n'importe comment n'est pas une pute. Pour moi, il n'y a pas de pute, c'est tout.
Voilà Françoise Lebrun dans La Maman et la Putain de Jean Eustache. 33 ans et déjà 40 films. Elle s'appelle Anaïs de Moustier, déjà toute jeune, Le Temps du Loup, de Michael Haneke en 2002, La Belle Personne, Inagi Kilimanjaro, Thérèse Desquerou, Quai d'Orsay, Jalouse au poste. Vous avez choisi La Fille au Bracelet, dans lequel elle incarne une avocate générale, ouais, une procureure assez sévère. Pourquoi elle et pourquoi ce rôle-là dans ce film-là?
Parce que, d'abord, c'est un film que j'aime beaucoup de Stéphane de Moustier, le frère d'Anaïs, et que je trouve très étonnant. C'est un film, je sais pas ce que vous en avez pensé, mais parce qu'elle fait un tour de force incroyable. C'est-à-dire que Anaïs joue très très bien, très juste. Et là, elle a décoché son jeu pour jouer une procureure qui n'a pas assez jeune, donc qui n'a pas encore l'habitude des prétoires et qui joue assez mal. Donc elle parle pareil, elle est assez fausse quoi, elle est assez pour quelqu'un d'aussi vrai qu'Anaïs, je trouvais d'une performance incroyable.
Elle surjoue son personnage, surjoue pour s'imposer.
Parce qu'on voit bien qu'elle est trop jeune et qu'elle dit je veux pas être prise au sérieux et elle est d'une dureté folle. Et alors entre parenthèses, il y a un très très beau témoignage de Chiara Mastroianni aussi dans le film. Il y a une très longue scène avec Chiara qui est formidable.
On rappelle juste que La Fille Bracelet, donc c'est cette fille Lise de 18 ans qui est accusée d'avoir assassiné sa meilleure amie. Et c'est donc le procès. Et là, on a choisi cette scène où Anaïs de Moustier, donc le procureur, interroge.
Harcèle presque
le père de cette Lise qui est joué par Roche Dizem.
À présent, j'aimerais que nous évoquions l'arrestation de votre fille. Est-ce que vous pouvez nous exposer votre version des faits?
Nous étions à la mer, la police est arrivée, a demandé à lui parler, et elle les a suivis.
D'accord, donc vous n'avez pas observé de résistance de la part de votre fille?
Ça a été rapide.
Oui, précisément. Cela signifie qu'elle n'a pas contesté, n'est-ce pas?
Comme vous n'avez rien à vous reprocher, vous n'avez aucune raison de vous enfuir.
Bon, elle aurait pu simplement demander... Pourquoi on venait l'interpeller de la sorte, ou du moins s'en étonner?
Elle était étonnée.
Ah, vous avez l'impression qu'elle était surprise?
Oui, bien sûr.
Comment a-t-elle manifesté son étonnement?
Je ne sais pas, elle était étonnée, c'est tout, ça se voyait à son expression.
Lorsque votre fille s'est éloignée, quelle a été votre première réaction?
J'ai demandé au policier ce qu'il lui voulait.
Vous étiez surpris?
Forcément.
Voilà, vous êtes surpris, vous demandez ce qui se passe, vous posez des questions. Comment expliquez-vous que votre fille n'ait pas exprimé sa surprise aussi simplement que vous l'avez fait?
Je vous ai dit qu'elle était surprise.
Oui, mais pour autant, elle n'a rien exprimé verbalement de sa surprise.
Ça ne change rien.
Grand espoir du cinéma français, Anaïs de Moustier, qui a déjà fait ses preuves. Mais dans cette génération-là, elle est très importante.
Oui, et puis... Elle a mille visages. Anaïs, elle est très jolie, elle a ce côté comme ça, mais elle a une force exceptionnelle. Moi, j'ai joué au théâtre deux fois avec elle, je la connais bien, et c'est une amie. Mais elle peut avoir une force dans la voix, mais qui est étonnante, sortant de ce petit corps tout mince. Et c'est une personnalité très très particulière.
Ensuite, il y a une actrice coréenne. Elle s'appelle Jeon Dong-hyun. Elle joue dans un très beau film qui s'appelle Secret Sunshine de Lee Chang-dong. C'est une histoire assez dramatique, cette jeune femme qui arrive après la mort de son mari avec son fils dans une petite ville de province. Son fils est kidnappé. Ouais.
Vous spoilez tout.
Ah oui, mais bon, il est sorti en 2007
Passe en ce moment, je l'ai vu.
On va passer un extrait parce que vous avez choisi ça où elle pleure.
Parler des pleurs.
Bah oui, en même temps, donc on dit pas pourquoi elle pleure, elle pleure. Pleure.
Voilà.
Là, elle est à l'église, en fait.
J'ai vu Fini il y a une semaine.
Ah, vous avez vu Fini il y a une semaine?
Oui, j'ai vu Fini il y a une semaine. Non, je l'avais pas vu à sa sortie. Et je me suis dit, mais c'est une manière de filmer le chagrin, absolument pas, avec pudeur, mais en même temps beaucoup de, c'est là quoi. Ouais. Et elle fait pas des petites larmichettes. J'ai trouvé ça incroyable, cette plongée dans la douleur. Je me dis, je me suis vraiment posé la question, comment elle est sortie de ce film? Comment on sort d'un rôle pareil? J'espère que ça allait bien. Elle a eu la palme d'interprétation, ça doit rasséréner. Mais c'est ça que je trouvais ça très beau. C'était sans hystérie. C'est le chagrin, mais sans l'hystérique. Nous, dans nos contrées, c'est très hystérisé. Et ça m'agace profondément. Mais elle, c'est des cris de bête.
Oui.
Quelque chose de ni féminin ni masculin, quoi. Enfin, pas. J'ai trouvé ça. De toute façon, j'adore le cinéma coréen. Je trouve que c'est eux qui font le cinéma en ce moment.
Et vous savez qu'elle l'a créé toute seule, ce rôle, parce que lui, il voulait lui donner aucune indication.
Oh, bah, vous voyez. Comme quoi, un acteur crée vraiment quelque chose dans un film.
Et il n'apporte ni réponse, ni réconfort. Mais le fait qu'il m'ait abandonné m'a finalement aidé. Je pouvais dessiner moi-même mon personnage.
Oh, quelle chance.
Ouais.
Non, mais c'est très beau. C'est vraiment...
ouais, non, c'est...
C'est une confiance en l'acteur qu'on trouve assez peu, finalement.
Secret Sunshine, ça s'appelle. Et c'est en ce moment visible. C'est de Lee Chang-dong.
Voilà. Enfin, vous avez raconté tout.
Dans toute cette... Mais non, mais non, non, non.
Voilà.
Dans toute cette liste, il y a un garçon. Un homme, c'est pas Gabin, c'est pas Ventura, c'est pas Delon, c'est pas Belmondo. C'est un garçon qui s'appelle Timothée Chalamet.
Oui.
Oui, dans Call Me By Your Name. Pourquoi lui? Pourquoi ce choix?
Parce que j'ai rarement vu un abandon total à des sentiments comme il le fait lui là dans ce film. Il s'abandonne, l'acteur s'abandonne à un amour voilà un peu impossible. Et j'ai trouvé ça sidérant, surtout de la part d'un jeune homme. Il y a des plans où il regarde le feu, il pleure sur une chanson parce que ça lui rappelle.
Et le plan final qui est magnifique.
C'est ouais. le plan avec la pêche, pardon, la scène avec la pêche, un érotisme torride. Et son abandon à cette histoire, l'acteur vraiment s'abandonnant à ça, j'ai trouvé ça magnifique.
On écoute juste un petit morceau de piano et il joue et son l'homme qu'il aime débarque dans le salon.
That sounds different. Did you change it?
Well, I changed it a little bit.
Why?
I just played it the way Liszt would have played it if he'd altered Bach's version.
Play that again.
Play what again?
The thing you played outside.
Oh, you want me to play the thing I played outside?
Please. I can't believe you changed it again.
Oh, I changed it a little bit.
Yeah, why?
I just played it the way Busoni would have played it if he'd altered Liszt's version.
And what is wrong with Bach, the way Bach would have played Bach's
version? Bach never wrote it for the guitar. In fact, we're not even sure Bach wrote it at all.
Forget I asked.
Non, mais voyez, c'est parce que j'ai pensé le sentiment amoureux est rarement joué par les hommes de cette façon.
Ah oui.
C'est oui. C'est ça qui m'a énormément fait penser. C'est un petit peu lui, il est hyper doué, hein, Timothée Chalamet. C'est vraiment un petit génie, un peu. Là, de le voir un peu. Je sens qu'il est un peu en contrôle et que ça se voit un peu dans d'autres films, j'ai vu. Mais là, il est, mais... Non, j'ai trouvé ça magnifique.
On a commencé avec elle, j'ai envie de conclure avec elle, Simone Signoret, pour vous faire réagir sur ses propos d'actrice.
Est-ce que votre métier vous absorbe beaucoup?
Dans les périodes où je le fais, il m'absorbe complètement. Complètement. C'est-à-dire que quand je tourne, eh bien, je ne fais que ça, je n'aime que ça, je n'aime... que les gens avec qui je travaille, je deviens une espèce de monstre, quoi.
La femme Signoret disparaît derrière l'actrice Signoret.
Ben oui, c'est pas... Enfin, si on veut être honnête et dire les choses comme elles sont, c'est vrai, oui, complètement. Enfin, faut pas exagérer, si quelqu'un de ma famille est très malade, ça me tracasse beaucoup, mais sans ça, enfin, je me lève le matin pour ça et je me couche après avoir fait ça et... Et il n'y a que ça qui m'intéresse pendant que je le fais. C'est pour ça que ne faire que ça tout le temps, c'est sûrement très dangereux, c'est très asséchant, parce que c'est une fausse vie quand même.
Et oui.
Et oui.
Non, mais elle a raison, c'est vrai.
Ouais.
Et ça ne peut être que comme ça. Sinon, c'est pas voilà.
C'est pas envisageable.
Sinon, c'est pas envisageable. J'ai des souvenirs comme ça de tournage, effectivement, où vous n'êtes que dans cette, l'histoire, et le week-end, quand on, voilà, on se repose, j'ai des souvenirs comme ça d'être allongée sur mon canapé chez moi et pendant 2 jours en attendant que de revenir le lundi pour continuer. Et vous êtes épuisé de sentiments, quoi. Ces sentiments vous épuisent. Même si c'est un tournage très heureux, hein, c'est pas le problème, ouais. Mais il faut plonger, quoi. Sinon, c'est faire autre chose.
Vous restez avec nous, on se retrouve pour des idées de soirée, longue soirée. Après, il y en a moins jolie. Vous restez avec nous, Emmanuel DeVos.
C'est le jour où l'été est arrivé. Le jour où nous avons rangé nos ratés. Comme l'on jette parfois du mobilier abîmé. On a déposé notre amour sur un trottoir du quartier. Alors sans cri, nous avons ri comme pour courir le bruit de nos sanglots. Timidement, on s'est dit, restons amis comme si c'était beau. C'est moins joli qu'un tout début, qu'un bouquet de roses, qu'un poème lu. C'est moins joli qu'un mot d'amour que l'on donne sans rien attendre en retour. C'est moins joli qu'un tout début, qu'un bouquet de roses, qu'un poème lu. C'est moins joli qu'un mot d'amour que l'on donne sans rien attendre en retour. C'est le jour où nous sommes sortis du rêve avant la fin. Comme si l'on avait peur qu'il ne finisse pas bien. C'est le jour où, au fond de moi, j'ai espéré que notre adieu dise à demain. Comme un accord stupide, on s'est promis qu'on s'appellerait encore, qu'on se dirait bonne nuit. Solitude des matins, des réveils froids, on ne regretterait rien. Pourtant, c'est moins joli qu'un tout début, qu'un bouquet de roses, qu'un poème lu. C'est moins joli qu'un mot d'amour que l'on donne sans rien attendre en retour. C'est moins joli qu'un tout début, qu'un bouquet de roses, qu'un poème lu. C'est moins joli qu'un mot d'amour que l'on donne sans rien attendre en retour.
Je le disais, Laurent, les soirées vont commencer à 18h, ouais. Donc on a intérêt à avoir de la... des provisions.
Arrêtez, n'en parlez pas.
Eh bien, on va commencer par les 3 premiers films de Tsai Ming-liang, par exemple, dans un coffret aux éditions Survivance.
Exactement. Les 3 premiers films s'intitulaient, ou s'intitulent toujours, bien sûr, Les Rebelles du Dieu Néon. J'adore ce titre. Ouais. Vive l'amour, qui avait obtenu le Lion d'Or à Venise, et La Rivière, Ours d'Argent à Berlin. Bref, belle entrée dans la carrière, si on peut dire. Et puis la suite n'a pas manqué d'intérêt non plus. C'est quelqu'un dont des cinéastes aussi à la fois divers et talentueux que Happy Chapong, Veraceta Cool, Nadav Lapid ou bien Lisandro Alonso se réclament en quelque sorte et pas se réclament mais se posent dans son héritage en quelque sorte. Il s'en inspire avec effectivement un cinéma plein de récits minimalistes avec des dialogues rares qui procèdent par petites touches pour des êtres souvent seuls et sur des à côté de la vie qui se cognent d'ailleurs littéralement physiquement à la vie. On songe aussi, alors cette fois non pas dans la filiation mais dans l'héritage, pour lui-même on songe évidemment au film d'Ozu dont il se réclame, oui. Lui également, bien entendu, c'est ce cinéma asiatique, vous parliez du cinéma coréen tout à l'heure, et Dieu sait si effectivement on l'aime ici. C'est un très beau coffret avec un documentaire inédit, un entretien avec le réalisateur, plus un livret, et je rappelle que c'est édité par Survivance.
Un autre film qu'on aime bien aussi, on avait reçu son réalisateur, oui. Il s'appelle Massoud Bakshi, c'est Yalda, chez Pyramide, un film iranien.
Absolument, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais voilà, c'est quand même très très intéressant parce que Yalda, sous-titré La Nuit du Pardon, c'est le récit inspiré d'une histoire vraie. Figurez-vous qu'en Iran, un criminel condamné à mort peut essayer d'implorer le pardon
de sa victime ou des parents de sa victime en direct à la télévision. Là, je crois qu'on touche le fond du fond du fond de la télé-réalité. Ça existe, alors ça n'existe plus, l'émission a été retirée, un peu d'ailleurs grâce au film Yalda, qui a au moins eu ce côté bénéfique-là, effectivement, d'essayer d'enrayer cette dynamique incroyable de la représentation du réel à la télévision. Alors, je ne dirai pas ce qui se passe réellement dans le film, je ne spoil pas, je laisse à chacun le plaisir de le découvrir, je vous en prie Emmanuel, c'est un deal entre nous. Le DVD est chez Pyramide, non, et il est assorti aussi d'un documentaire du cinéaste sur Téhéran, qui est un documentaire très ironique, très drôle sur sa ville natale. Voilà.
Maintenant, on va passer au livre avec cette encyclopédie du film policier français de Patrick Brion. Édition Télémax, 600 pages, 888 films, 1250 photos et affiches.
C'est bien résumé, La Voix du cinéma, 1910-2020. Donc ça va de Fantomas, évidemment, à Trois jours et une vie de Nicolas Boukrieff. C'est le dernier film référencé, en passant évidemment par Bob le Flambeur ou Mortelle Randonnée. Mais on ne pourrait pas évidemment tous les énumérer. Alors c'est, il faut le lire avec à chaque fois la voix de Brion dans la tête, parce qu'il y a un petit commentaire de lui, donc cette espèce de voix blanche incroyable, vous parliez des voix blanches tout à l'heure, Emmanuel Devos s'en est une, extraordinaire, et on a le commentaire de Brion en tête, c'est magnifique, et il y a aussi évidemment des perles, des pépites qu'on aimerait voir, qu'on découvre, on se dit, ah bon, ça existe le film, La Souricière de Henri Calef avec Blier et Perrier par exemple, et puis surtout, Joey Caligula du Suif chez les Dab, de Benazir Aff avec Gérard Blin et Ginette Leclerc. Celui-là, vraiment, j'aimerais énormément le voir. Mais quoi qu'il en soit, faites-vous plaisir en allant picorer dans cet énorme pavé sur le cinéma policier français. Encyclopédie du film policier français, 1910-2020, c'est aux éditions Télémac.
On se souvient d'À bout de souffle, Jean-Luc Godard. On se souvient d'une scène, chapeau, lunettes noires, il descend d'un avion. Sur le tarmac, il est assailli par les journalistes. À la question de savoir quelle est sa plus grande ambition dans la vie, il répond devenir immortel et mourir. Il s'appelait Jean Parvulescu. Et Christophe Bourseiller lui consacre un livre également à Jean-Luc Godard. Ça s'appelle « En cherchant Parvulescu ». Un livre super intrigant.
Merveilleux livre, ouais. Merveilleux livre court, j'allais dire petit, ce serait dépréciatif, c'est un livre court, et c'est très bien ainsi, c'est à la table ronde, et effectivement, tout tourne autour de ce Parvulescu, autour de Jean-Luc Godard, que, il faut le rappeler, Christophe Bourseiller a fait tourner dans trois films, et notamment dans Weekend, où Mireille Darc a fini par lui coller une gifle tellement elle le trouvait insupportable pendant le tournage, donc ça c'est quand même merveilleux d'avoir été giflé par Mireille Darc, je trouve, c'est un beau souvenir, et dans le premier film de Godard qu'il a tourné, au générique qui s'appelle Chris Toff. Là aussi, c'est du Godard. Et il a aussi tourné, bien sûr, avec Yves Robert dans Un éléphant, ça trompe énormément, on s'en souvient tous. Et il y a une phrase clé d'Yves Robert qui surgit à la fin du livre, je la donnerai pas, mais qui est une explication extraordinaire de ce qu'est Christophe Bourseiller, parce que ce qui est merveilleux dans ce livre, c'est que c'est évidemment sur Parvulescu, évidemment sur Godard, évidemment sur Yves Robert, mais c'est aussi un livre, évidemment, à la première personne, sur Christophe Bourseiller, qui il est, et vraiment c'est une très très belle mise à nu, avec à la fois une pudeur et une impudeur totale. C'est un coup de cœur, vraiment. Et ça s'appelle, je le répète, En cherchant Parvulescu, et c'est aux éditions de la Table Ronde.
Vous étiez intrigué?
Oui, non, je repensais, parce que j'ai revu Un éléphant, ça trompe énormément. Oui. Je me dis, j'aime vos seins. Oui. Avec ce ton incroyable.
Incroyable. Voilà, essayez. Bête voix blanche.
Oui.
Ben, bien sûr, évidemment.
Vous n'avez rien contre la jeunesse.
Oui. Et ce cadeau pour Emmanuel Devos, Le chat de Pierre Granier de Fer.
Ah, formidable.
Ah, oui, ben oui, ah, évidemment. Oui.
Exceptionnel. Hein,
bien sûr, Gabin, Signoret, d'après Simenon, adapté par Pascal Jardin. C'est un film de 1971 et Coin de Mire, l'éditeur Coin de Mire.
Beau,
oui, il édite dans un superbe coffret de sa collection merveilleuse avec dans le DVD il y a des et les Blu-ray, il y a des actus et des pubs de l'époque, on peut se replonger dans ce qu'étaient les salles de cinéma, il y a même les petites photos, vous savez, celles que Truffaut volait.
Rendez-nous les salles de cinéma.
Absolument. Voilà, rendez-les nous s'il vous plaît avec un livret d'époque, des affiches extraordinaires, il y a des affiches italiennes notamment qui sont absolument surréalistes. Bon, tout le monde connaît cette chronique qui pourrait s'appliquer au Ni avec toi, ni sans toi, cher à François Truffaut. C'est du pur Simenon et c'est une très très belle édition, je le rappelle, éditée par Coin de Mire.
Quel souvenir vous avez de ce film, Emmanuel Devos, du chat?
Pff, d'abord, moi j'adore Simenon. Simenon, c'est vraiment, je lis en permanence Simenon. Et elle a les deux plus grands acteurs, parce que j'ai pas parlé de Jean Gabin, mais bon, je vous en avais. Enfin, voilà, c'est les deux plus grands, quoi, je pense, réunis dans cette histoire tellement tragique, ce tragique de banlieue, quoi. C'est magnifique.
Vous disiez vivement les salles de cinéma. Vous en avez ras-le-bol de ces images qu'on voit chez
voilà,
chez
non, mais j'ai l'impression de voir le même film tous les soirs, parce que comme on change pas d'endroit, on est obligé de regarder des films extrêmement différents pour se donner l'impression voilà, que c'est pas la même chose, que tout se mélange, Franck Dubosc dans un film coréen, avec Robert Mitchum arrivant. Non, mais tout est mêlé, c'est une sorte de melting pot d'images, c'est effrayant. Donc oui, un film, c'est aussi une salle de cinéma. On a trois salles qu'on adore. Moi, je vais UGC Bercy, le Méliès à Montreuil, ou celui de Vincennes, à côté de chez moi. Ouais. Donc je sais quel film j'ai vu à tel endroit. C'est ça qui compte. Il y a aussi la géographie de l'endroit où des films que l'on voit.
Rendez-nous les salles de cinéma, s'il
avec
vous
des
plaît,
masses, tout
avec
à fait
masses.
Possible.
Et les théâtres aussi.
Et les théâtres aussi, bien sûr.
Merci beaucoup, Emmanuel DeVos.
Merci à vous.
Ouais, on vous laisse les clés du générique.
S'il vous plaît.
Au revoir.
Au revoir. C'est une émission inspirée par tous les films de cinéma. Il y a des réalisateurs et des acteurs. Il y a aussi des scénaristes et des chefs opérateurs. Les prises de vue sont des prises de son. Georges Delerue a écrit les musiques du générique. Les morceaux ont été choisis par Muriel Pérez. Christophe Magère s'est occupé de la préparation. C'est une émission réalisée par Laurane Thomas et Claire Destacan. Elle est produite et présentée par Christine Masson et Laurent Delmas. Et moi, Emmanuel DeVos, j'y étais. Le cinéma, disait André Bazin, substitue à notre regard un monde qui s'accorde à nos désirs. Et cette émission s'accorde à mes désirs.